au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Bonjour et bienvenue dans notre émission Au fil des pages, une émission aujourd'hui consacrée à la vie intellectuelle, cette grande revue créée par les Dominicains en 1928. Et avec nous pour en parler, Jean-Claude Delbreil, ancien élève à l'École normale supérieure. Vous avez été professeur d'histoire contemporaine à l'université de Metz et vous êtes un des spécialistes de la vie intellectuelle et des courants de pensée qui y sont liés. Alors, je crois que vous vouliez, avant de nous parler de ce livre que vous venez de publier aux éditions du Cerf, intitulé « La revue, la vie intellectuelle ». Marc Sangnier, l'automisme et le personnalisme, repréciser le contexte de ce travail.
Oui, alors il faut partir d'un point de départ qui était un mémoire de maîtrise, qui s'appelait alors le DES, diplôme d'études supérieures, soutenu en 1965, sous la direction de M.
René Raymond.
Oui, aujourd'hui malheureusement disparu, il y a un an, et qui portait donc sur la revue La Vie Intellectuelle, mais sur la période 1928-1940 seulement.
La première période
de La Vie Intellectuelle face aux problèmes de son temps, c'est-à-dire essentiellement politiques, économiques et sociaux. Ensuite, après ma carrière a commencé, donc j'ai continué les travaux dans la direction de la démocratie chrétienne, notamment avec une thèse d'État sur le Parti démocrate populaire, qui était le principal parti démocrate chrétien de l'entre-deux-guerres. Et je me suis intéressé aussi ensuite à Marc Sangnier dans le cadre de l'Institut Marc Sangnier créé il y a une quinzaine d'années avec notamment le professeur Jean-Marie Mailleux, dans le cadre duquel j'ai écrit un livre qui est paru en 97, un livre de témoignage sur Marc Sangnier, paru aux éditions Bouchen en 97, dans lequel il y avait une quinzaine de témoignages que j'avais rassemblés avec bien sûr une synthèse. Mais il m'est apparu que certains témoignages manquaient, notamment de ceux que je n'avais pas pu étudier à cause de leur disparition précoce. Ces témoignages, notamment que j'ai repris dans le journal de l'âme commune, le journal des amitiés Marc Sangnier, notamment deux témoignages, ceux d'Étienne Borde et de Jacques Madol, tous deux. Un point commun aussi, en dehors de leur amitié pour Marc Sangnier, qui était des anciens collaborateurs de la vie intellectuelle.
On en reparlera.
C'est comme cela qu'est venue l'idée de faire une sorte de parallèle entre Marc Sangnier et la vie intellectuelle. C'était le point de départ. Ensuite, le travail s'est orienté davantage vers la revue La Vie Intellectuelle, donc une sorte de synthèse de travaux sur Marc Sangnier et sur la revue La Vie Intellectuelle, et surtout axé bien sûr sur la revue elle-même, mais dans un contexte plus large. Revenant, remontant jusqu'au Sillon, bien entendu, et à la crise du Sillon et de sa condamnation, mais aussi le cadre des idées plus générales de l'entre-deux-guerres, avec l'apparition du personnalisme, du néo-thomisme, etc.
Alors, justement, venons-en à la vie intellectuelle elle-même. Elle est donc fondée en 1928 par un dominicain de la province de Toulouse, le père Bernadeau. Elle a pour parrain, si l'on peut dire, le pape Ponce d'un côté, oui, et Jacques Maritain de l'autre. Ah. Est-ce qu'on peut peut-être repréciser déjà le contexte politique et religieux en France au moment, oui, de la création de la revue?
C'est tout à fait possible. Je crois que, sur le plan politique général, on est dans une période d'optimisme en 28 encore, dans les périodes des années 20, qu'on a qualifié d'année d'illusion parfois. Donc optimisme à la fois sur le plan intérieur, prospérité économique jusqu'en 29, pour la France jusqu'en 31-32, calme social relatif. Sur le plan politique aussi, retour au calme après le cartel des gauches, avec le retour de Poincaré aux affaires. Et c'est dans ce contexte général, que, plutôt favorable, porté à l'optimisme comme je l'ai dit, que naît la vie intellectuelle dans un catholicisme français lui-même, on peut dire, en état de prospérité à l'époque, qui se porte bien sur le plan de la pratique, de ses soutiens, mais divisé également depuis notamment la condamnation de l'Action française en 1926.
Deux ans plus tôt.
Alors là, il faut resituer bien sur le cadre religieux de façon plus précise, depuis notamment l'arrivée du nouveau pape Pie XI aux affaires en 1922. Qui a incontestablement imprimé un nouveau cours à la politique de l'Église et à la politique pontificale, en soutenant de nouvelles tendances, se démarquant un petit peu de celles de Pidisme, on peut le dire, antérieurement renouant peut-être avec celles de Léon XIII. Et c'est dans ce cadre qu'il faut donc resituer la essence de la vie intellectuelle. Un catholicisme français, certes dynamique, mais divisé par la crise d'Action française et par des oppositions internes sur le plan politique. On pourrait dire en simplifiant qu'il y avait deux grandes tendances à l'époque sur le plan politique et idéologique général, une tendance plus ou moins conservatrice, encore dominante malgré les apparences, avec un parti qui recueillait la majorité des suffrages catholiques dans beaucoup de régions, qui était la Fédération républicaine à l'époque, appuyé plus ou moins, enfin aussi depuis l'époque du cartel des gauches, par une organisation créée en 1924, qui était la Fédération nationale catholique,
du général de Castelnau.
À côté de ces tendances conservatrices, existaient cependant d'autres tendances, qualifiées pour simplifier de plus avancées, je n'aime pas trop le terme progressiste à l'époque, mais enfin plus en avant, plus à l'avant du catholicisme français, et cherchant d'autres voies que les voies conservatrices, notamment les démocrates chrétiens eux-mêmes, eux qui étaient également divisés entre le Parti démocrate populaire, et également en 1924, et qui s'inscrivaient contre certaines tendances à la Fédération républicaine, avec un combat entre les deux partis, certes inégaux en importance, mais combat souvent très vif. Le Parti démocrate populaire, donc démocrate chrétien, et plus à gauche, la Jeune République était fondée par Marc Sangnier avant 1914, qui a continué son action après la guerre, donc toujours dirigée par Marc Sangnier, plus faible que le Parti démocrate populaire sur le plan numérique, mais qui, elle, cette Jeune République, voulait se situer nettement à gauche, alors que le PDP se situait encore toujours au centre-droit, tout en se voulant vraiment centriste, mais il restait plus ou moins nettement centre-droit, mais en opposition avec la droite traditionnelle de la Fédération républicaine et de la Fédération nationale catholique. Dans ce contexte de division, à la fois d'optimisme et de division, qu'il faut resituer la naissance, effectivement, de la vie intellectuelle en 1928. Je crois que là, on peut dire qu'il y a eu une sorte de trio, effectivement, est à l'origine de la vie intellectuelle, avec trois personnages. À la fois le pape Pie XI, qui lui-même a poussé à la naissance de la revue de façon contestable. Il tenait à avoir un soutien en France contre l'Action française et ses influences.
Pour la droite et contre
contre la droite et l'extrême droite, surtout.
Voilà.
Donc le trio, il faut le rappeler d'abord, c'est donc le trio Pie XI, Jacques Maritain, qui déjà est un philosophe émergent, et bien, sur lequel on faisait de grands espoirs à Rome, mais qui, jusqu'en 1926, avait des sympathies pour l'Action française, ce qu'on a appelé donc, le thomisme d'Action française. Et d'autre part, donc, le père Bernadot, qui lui pensait également à créer un nouvel instrument, une nouvelle revue. Et donc, il y a eu rencontre entre ces trois hommes, on peut le dire, qui a abouti à la vie intellectuelle avec des vues qui n'étaient peut-être pas entièrement concordantes, notamment entre Maritain et Bernadot. Et ensuite, on verra qu'il y a aussi des problèmes du côté de la papauté à la fin de la période. Néanmoins, c'est ce trio qui a abouti à la naissance de la vie intellectuelle, dans une naissance un peu confuse et difficile. On peut le dire, il faut rappeler ici qu'il y avait déjà d'autres revues dominicaines qui existaient à la même époque. La vie spirituelle, donc, créée également dans l'après-guerre, qui avait obtenu un certain succès.
Toujours par le père Bernadot.
Toujours par le père Bernadot.
Un grand fondateur de revue, qui sera le fondateur des éditions du Cerf.
Éditions du Cerf en 1929, quelques mois après la
vie intellectuelle.
Il y avait aussi la revue des jeunes, qui avait également un petit succès d'estime, et qui a joué aussi un rôle, et la revue thomiste. Donc, toute une efflorescence de revues, même si on se dit simplement aux dominicains. Dans ce cadre, il y avait également des divergences, on peut le dire, dans l'ordre dominicain lui-même, il faut le rappeler, hein, entre plusieurs tendances. Qui restait encore maurassienne, notamment dans la province de Toulouse.
La province dont est originaire le père Bernadot.
Originaire avec ce qu'on appelait la crise de Saint-Maximin, où était alors Bernadot. Et également le père Lajeunie, qui a joué aussi un rôle important aux origines de la revue. Dans cette crise dite de Saint-Maximin, il semble bien que à la fois Maritain et Pie XI aient joué un rôle important pour, bien sûr, donner la première place à Bernadot et à son équipe face à l'équipe ancienne dirigée plus ou moins par la personnalité du père Pegg, qui lui s'est trouvé plus ou moins évincé.
On peut surtout dire qu'elle se termine en fait en faveur du père Bernadot.
En faveur du père Bernadot,
qui obtient
bien sûr.
Sa transfiliation dans la province.
Par la transfiliation, ensuite du père Bernadot et du père Lajeunie dans la province de France. Avec le problème des rapports entre le thomisme maritainien, on peut le dire aussi, le thomisme du Saulchoir, qui était peut-être un peu différent. Donc, au début, Maritain, les documents récents l'ont prouvé que j'ai eu en possession, notamment par un article récent d'Étienne Fouilloux, qui a écrit un article récent montrant l'importance, plus grande encore sans doute, qu'on l'a dit, de Jacques Maritain aux origines de la revue, mais avec des projets qui étaient un peu différents de ceux de Bernadot lui-même. Et cette divergence allait apparaître dès l'apparition de la revue en octobre 28. Cette question est encore un peu controversée, mais il apparaît bien que Maritain espérait une revue, moins cléricale, qui ne soit pas une revue de curé, comme il l'avait dit, alors qu'au départ, elle était dirigée par, essentiellement par les Dominicains. D'autre part, il espérait peut-être une équipe plus proche de lui sur le plan du thomisme.
Il a visiblement été un peu déçu, il va s'éloigner un peu de la
Il s'est d'abord éloigné de la revue assez rapidement, après les premiers numéros, en déclarant qu'il voyait beaucoup de confusion, une certaine confusion, un certain confusionnisme, qu'il ne se reconnaissait pas entièrement donc, dans cette revue, pour lui, qui manquait de direction ferme. Peut-être aussi une certaine rivalité de personnes et de tendances, à la fois dans l'ordre dominicain d'une part et dans les différentes formes de thomisme. On distingue le thomisme d'Action française, donc condamné, puisque Maritain lui-même, bien sûr, s'était soumis en 26 et avait défendu la papauté avec plusieurs ouvrages et en collaboration avec le père Bernadot, dont Pourquoi Rome a parlé. Mais il y avait quand même différentes tendances thomistes qui se sont heurtées à ce moment-là, sans doute, et qui n'ont pas donné, qu'une solution qui n'a pas donné entièrement satisfaction à Maritain. Bon, il y a eu un éloignement provisoire de Maritain à l'égard de la vie intellectuelle, mais il semble qu'il y ait ensuite un nouveau rapprochement, notamment dans les années 34-37.
Alors, le père Bernadot fonde cette revue, il y fait venir de jeunes dominicains, oui. On va citer peut-être ceux qui ont joué le rôle le plus important dans la vie intellectuelle, le père Boisselot, le père Médieu surtout, qui va devenir peu à peu le rédacteur en chef, d'abord officieux de la revue, pour être officiellement le rédacteur en chef après la Deuxième Guerre mondiale, et puis le père Carré, de l'Académie française plus tard, jeunes dominicains qui tous sont marqués à l'origine, qui l'ont avoué au moment où ils entrent dans l'ordre, par Maurras.
Tous ont été marqués par Maurras et l'Action française dans leur jeunesse. Notamment le père Médieu, peut-être plus que les autres. Enfin, il semble que le père Médieu soit resté et garder les sympathies maurrassiennes un peu plus longtemps peut-être que le père Bernadot, puisque le père Bernadot avait quand même l'idée de créer une revue plus ou moins anti-maurrassienne dès avant 26.
Et alors, il faut citer ensuite dans le personnel qui est marge à cette revue, des laïcs. Peut-être que vous pouvez nous présenter certains des plus marquants, là encore. Je pense à Jacques Madot, à Étienne Born ou à Maurice Schumann.
Oui, tout à fait. Alors, du côté des dominicains, bien sûr, les plus marquants sont Bernadot, Boisselot, Médieu. Et après, ensuite, la nouvelle génération des Congars.
Du Barge,
Carré, etc. aussi, Chenu, etc. Alors, du côté des laïcs, là aussi, il y en a eu plusieurs générations. D'abord, une génération, non pas vraiment d'origine sioniste. Là, je crois qu'il ne faut pas faire d'erreur d'interprétation. Il y a eu pratiquement pas d'anciens sionistes dans la vie intellectuelle, mais des gens qui ont été marqués par l'esprit de Marc Sangnier et qui l'ont reconnu par la suite, notamment dans les témoignages que je donne au début du livre. Donc, on peut citer, des gens comme Étienne Born et Jacques Madol, mais également Henri Guillemin, par exemple, et quelques autres. Et Maurice Schumann, mais qui n'arrivera qu'un peu plus tard, à la fin de la période, dans les années 36-40, surtout.
Et qui vient d'un univers politique différent.
Il était d'origine socialiste. Ensuite, il a rencontré Marc Sangnier vers 1930. Et là, c'est là qu'il s'est converti, en quelque sorte, à la démocratie chrétienne, au moins dans l'optique de Marc Sangnier. Et il a reconnu lui-même que c'était donc les idées de Marc Sangnier qu'il avait conduit et aidé ensuite à comprendre et à soutenir les idées des pères dominicains de la vie intellectuelle. C'est lui qui a reconnu le plus nettement, en quelque sorte, cette liaison entre les idées de Marc Sangnier et les idées de la vie intellectuelle. Maurice Schumann, qui a joué un rôle important notamment sur le plan des idées internationales dans les, j'appelle les années de montée des périls à la fin de la période.
Et alors, Maurice Schumann, qui est aussi présent dans une autre revue des Dominicains,
qui s'appelle la revue
7, et qui est à l'origine, malgré lui, d'un incident, oui, grave qui va aboutir à la fin de la revue.
Si on veut parler de 7, c'est un autre problème, puisque la revue 7 a été créée en 1934 pour élargir le public de la vie intellectuelle, hein, puisque la vie intellectuelle n'avait que, je crois, que 6000 abonnés au maximum, mais encore à la meilleure période. Donc ils avaient essayé de dépasser ce public restreint un peu volontairement, d'ailleurs, quand on voulait s'adresser à une élite. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a créé un hebdomadaire, il s'appelait 7, un hebdomadaire qui, lui, dépassait les 20 000 exemplaires, je crois. Hebdomadaire qui adoptait des positions, sans doute, dans l'ensemble, plus avancées encore que la vie intellectuelle. Alors, peut-on dire qu'il y a eu quelques imprudences commises, c'est possible, dans le cadre de la fin d'entre-deux-guerres, à une époque où la papauté, avec Pie XI lui-même, s'est orientée à nouveau vers un autre infléchissement, peut-être plus à droite et moins à gauche qu'au début du pontificat, dans le cadre de l'unité des catholiques, c'était qui est voulu en partie par Pie XI. Effectivement, il y a eu le problème de l'interview Blum, au début de 1937, par Maurice Schumann lui-même, dans lequel Blum préconisait pour l'avenir l'union des catholiques et des socialistes. Et cette interview a été une des origines, mais pas la seule, hein,
de
la condamnation de Sept. Donc Sept qui a été condamné finalement au mois d'août 1937, après cette interview qui était du début de l'année 1937, au moment de ce qu'on appelait la pause du fonds populaire, dans le cadre du fonds populaire, avec un certain arrêt des réformes. Et c'est à ce moment-là que la vie intellectuelle elle-même a été menacée, dans son existence même, on peut le dire. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'à la suite de l'article de cette affaire de Sept et la condamnation de Sept, il y a eu immédiatement après la publication des deux fameux articles d'octobre 1937, hein, c'est-à-dire l'Église corps de péché et par notre faute.
Dans la vie intellectuelle.
Dans la vie intellectuelle. Là, on peut considérer que c'est une sorte de réplique. Une sorte de colère contenue devant la condamnation de Sept. C'est l'opinion de beaucoup, et je la partage très largement. Mais cette réplique elle-même a encore moins plu. Et dans ce cadre, c'est la vie intellectuelle elle-même qui a subi des critiques.
Et qui est menacée.
Et oui, qui est menacée dans son existence même, comme Sept. Il semble qu'il s'en ait fallu de peu que Sept soit condamné à la disparition. Une intervention sans doute comme celle du cardinal Liénard à l'époque. Qui ont joué dans ce sens.
Il faut juste rappeler qu'au début de la création de la vie intellectuelle, le pape Pie XI en parlait comme de ma revue, entre guillemets.
Oui, alors il faut. Oui, alors, je n'ai pas dit encore. Mais il faut voir quand même qu'au début, en moins une dizaine d'années, enfin 7-8 ans, Pie XI a vraiment beaucoup soutenu cette revue. C'est, le soutien fut réciproque, puisque la revue intellectuelle a toujours soutenu la papauté dans toutes ses initiatives. On a dit que Pie XI l'avait sur sa table de nuit et qu'il l'appelait ma revue, bien entendu. Ça serait vérifié, mais enfin, c'est fort possible.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Marguerite Yourcenar fut la première femme écrivain élue à l'Académie française. Canal Académie consacre 4 grandes émissions aux différents aspects de son talent, son œuvre romanesque, son érudition et son travail de traductrice. Marguerite Yourcenar, une citoyenne du monde, 4 émissions sur Canal Académie.
Il est normal que dans des années aussi riches sur le plan politique, en politique intérieure en France, mais également internationale, dans les années 30, vous parliez de la montée des périls, la ligne éditoriale d'une revue évolue. Est-ce qu'on peut là essayer, est-ce qu'il est possible de synthétiser la ligne éditoriale de la vie intellectuelle, ou est-ce que justement, au moment où le père Bernadot en laisse la rédaction en chef au jeune père Médieu, cette ligne éditoriale devient plus flottante ?
Oui, alors là, il faudrait d'abord revenir sur les grandes idées de la vie intellectuelle. Mais effectivement, on peut estimer qu'après le coup de semonce de 1937, il y a eu une évolution vers une plus grande prudence de la part du Père Médieu. Il semble que Bernadeau et Boisselot étaient prêts à jeter l'éponge en 1937, et que c'est le Père Médieu qui a voulu continuer la revue quand même, mais dans le cadre d'une plus grande prudence pour sauver la revue.
Alors, vous avez dit aussi que la vie intellectuelle avait des idées très précises sur l'État et l'économie. Je pense qu'on peut aborder
très précises, ça, si on peut discuter le terme très précis. Hein,
Prenons le cas peut-être du syndicalisme.
Non, le syndicalisme, justement, c'est un des points qui ont été peu abordés par cette revue. On ne sait pas très bien pourquoi, alors qu'il y a eu un autre thème qui a été très abordé, qui est le thème du corporatisme, voilà, dans lequel la place du syndicalisme était peu précisée. Alors, on peut dire qu'il y a une sorte de déferlement d'idées corporatistes dans la revue de la vie intellectuelle, dans les idées dans les années 34-36 à peu près. Sous l'influence, je ne parle pas sous l'influence d'exemples extérieurs, c'était dans le cadre d'une recherche. Étant donné qu'il faut le rappeler de façon prioritaire, ça dans le cadre de ces idées générales de la revue, il y avait une condamnation parallèle du libéralisme économique, tout au moins dans ses formes extrêmes, et du socialisme. Donc dans ces conditions, on nécessitait de trouver autre chose. Et on s'est tourné, comme beaucoup de catholiques à l'époque, vers l'idée corporatiste. Même avec des prudences, en se démarquant du corporatisme d'État de pays comme l'Italie ou l'Allemagne hitlérienne ou d'autres pays. Mais néanmoins, on a quand même soutenu cette idée du corporatisme. Assez vague, puisqu'on a déclaré également insuffisant le corporatisme dit d'association qui remontait avant 1900. Il y avait la vieille idée chez les catholiques sociaux de la profession organisée qui a refait surface. On a vu dans le corporatisme, à un moment, le seul moyen de concilier le patronat et la classe ouvrière, l'économie et la société, etc. Cependant, ce thème a été ensuite plus ou moins abandonné, mais pas complètement, à partir de 1935-1936. Parallèlement, il y a aussi un autre thème qui est apparu, celui de l'ordre catholique, soutenu notamment par Étienne Gilson. Ordre catholique très imprécis, qui pense que Étienne Gilson voulait, sous ce terme, un regroupement de toutes les institutions catholiques de l'époque. Qu'un flou, là aussi, pour savoir si on irait jusqu'à la CFTC, jusqu'aux partis eux-mêmes. Il faudrait quand même rappeler dans ce cadre qu'il y avait aussi, à côté du foisonnement des revues, un foisonnement de mouvements. Hein. La CJF, l'Association catholique de la jeunesse française, qui ensuite s'est orientée vers les mouvements spécialisés dans les années 30, la JAC, la JOC, etc. Et d'autre part, il y avait aussi la FNC, bien entendu. Et puis sur le plan syndical, il ne faut pas oublier la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens. Mais effectivement, on remarque une certaine absence des réflexions sur le syndicalisme lui-même, à côté du déferlement des idées corporatistes. Et à la fin de la période, on s'est orienté vers d'autres idées, avec des hommes comme François Pérou ou Henri Guiton, d'autres économistes, comme l'entreprise. L'idée de l'entreprise, l'idée de la communauté de travail, assez flou là aussi.
L'idée d'État est abordée aussi. On est en pleine crise de la démocratie libérale, on voit l'État prolétarien qui progresse.
Assez tôt, très tôt, la vie intellectuelle a développé des idées, des discussions sur la notion d'État avec des juristes comme Georges Renard, etc. Et dans le cadre d'une critique aussi, de la montée des régimes autoritaires, voire totalitaires. Le terme de totalitarisme a été plus ou moins employé, mais il ne faut pas dire que c'est la vie intellectuelle qui a inventé la notion de totalitarisme, de critique de totalitarisme, mais elle était latente. On a parlé de le livre de Vialatou, notamment sur l'État totalitaire. Maurice de Gondillac qui a écrit un article sur ce livre. Donc là, on arrive au thème de la critique des totalitarismes et des États totalitaires. Une réflexion sur l'État, bien entendu, mais les refus d'État corporatiste, tout en défendant un certain corporatisme, mais et les refus du totalitarisme et des États totalitaires. C'est un point très important. Quelle est conduite aux positions des années 30 face à l'Italie fasciste, à l'Allemagne hitlérienne et également face au franquisme. Enfin, quoique sur la guerre d'Espagne, là, il y a eu quand même des divergences d'opinion.
Ah, on peut peut-être justement
une certaine prudence, une certaine prudence.
Ou des dissensions. Et des dissensions entre signatures qui sont Mauriac et.
Oui, alors là, on peut venir effectivement au point de deux grandes signatures qui sont apparues également dans les vies intellectuelles, qui étaient celles de Paul Claudel et François Mauriac, qui ont collaboré de façon, on peut le dire, épisodique et partielle à la revue, mais qui ont néanmoins collaboré.
Caution, oui,
qui apportaient, et puis il faudrait citer également Gabriel Marcel. Charles Dubos, etc., des gens comme importants. Donc, Claudel et Mauriac, effectivement, se sont heurtés, là, j'en parle dans mon travail, à propos d'un manifeste sur le soutien au peuple basque en 1937. Claudel, estimant qu'il ne fallait pas donner raison aux rouges pour défendre la chrétienté, et inversement, Mauriac, estimant qu'il fallait défendre. Les valeurs humanistes dans la guerre d'Espagne, des deux côtés. Bon, c'est Gabriel Marcel aussi a collaboré à la revue. Donc sur la guerre d'Espagne, dissension. Déjà auparavant sur la guerre d'Éthiopie, il y avait aussi quelques petits problèmes, quoique on a quand même condamné globalement l'agression italienne en Éthiopie, mais il y avait des voix discordantes qui estimaient que c'était peut-être une œuvre de civilisation. Oui. Je crois qu'il faut aussi insister sur les disparates. À oui. L'intérieur de la vie intellectuelle.
C'est ça, on a ce sentiment de plumes un peu en désaccord les unes avec les autres, d'une ligne éditoriale qui oscille entre une certaine conciliation, vous avez dit vous-même qu'on ne peut pas parler de progressisme chrétien en coq, mais une certaine conciliation, puis de l'autre côté, des ferments de conservatisme. Oui, je crois qu'au moment du 6 février 1934, on sent que l'équipe rédactionnelle de la vie intellectuelle se réjouit un petit peu du terme.
Cela rejoint l'autre thème que je voulais évoquer, effectivement, qui est le soutien aux idées de réforme de l'État. Qui était assez précoce dans la revue. La revue était en faveur d'un renforcement du pouvoir exécutif. C'est incontestable, dans le cadre de la réforme de l'État. Un pouvoir plus fort, sans aller jusqu'à un pouvoir dictatorial, bien entendu. D'autre part, il y avait une réaction, bien sûr, contre les scandales qui avaient entouré le régime républicain dans ces années. Et l'opinion majoritaire de la revue, il faut bien le reconnaître, a été un certain soutien au 6 février 1934, du moins sur le coup. On y voyait une réaction de braves gens écœurés par le spectacle qui les entourait. Par exemple, pour les ligues, il y a une certaine compréhension à l'égard des Croix-de-Feu, par exemple. Compréhension. À côté de ça, il y aurait d'autres thèmes à évoquer quand même. Le thème de nouvelle chrétienté défendu par, notamment par Maritain et par d'autres, qui était un thème important de la revue et qui était dans l'air du temps. Pion lui-même l'avait lancé, je crois, dès le début des années 20. Et donc, c'était repris par Maritain et par beaucoup d'autres dans les années 30. Quoi qu'il semble que sur ce point, le père Médieu était très sceptique, plus sceptique en tout cas que les autres, sur l'idée de nouvelle chrétienté, trouvant trop vaste et trop confuse. Néanmoins, ce thème a été important et c'était un des thèmes de soutien doctrinal de la revue, pratiquement jusqu'au bout. Ensuite, ce sera dans la seconde période plus ou moins abandonné au profit de l'idée de mission. Avec la seconde revue intellectuelle des années 45-56.
Cette idée d'une France terre de mission, elle est bien avant les publications, je dirais, elle est présente déjà en filigrane dans la vie intellectuelle, première version.
Bien sûr. La déchristianisation de la France est reconnue comme un fait. On a parlé de l'irreligion contemporaine, mais je crois que le terme de mission n'était pas vraiment encore présent et il n'apparaîtra vraiment qu'après 45. C'est dans ce cadre, on peut dire, que d'autres thèmes sont apparus, comme le soutien à côté, face à la FNC, de l'Action catholique spécialisée.
Voilà.
L'Action catholique spécialisée, c'est-à-dire avec les mouvements à côté de la CJF, les mouvements spécialisés par milieu, la JOC, la JAC, et la JEC en particulier. Donc l'idée de nouvelle chrétienté est très importante. Et les disparates également, qui sont incontestables, voire les contradictions. Alors certains ont incriminé la personnalité du père Médieu, mais on ne peut pas dire que ce soit le seul responsable, puisque ces contradictions sont apparues dès son arrivée, bien avant son arrivée. Vous savez que le père Boisselot a critiqué pendant un mémoire paru pendant la guerre.
Très fortement, la ligne éditoriale du père Médieu.
Bon. Ce qui peut paraître regrettable sur le plan des dissensions internes, mais qui correspond peut-être à une certaine réalité.
Il n'en reste pas moins qu'après-guerre, lorsque la revue reprend, c'est le père Médieu.
Alors, c'est le père Médieu, ensuite, qui, qui a repris en main la revue puisque Berlado était décédé pendant la guerre. Boisselot lui-même s'est orienté davantage peut-être vers les progressistes, vers la quinzaine en particulier, tandis que Médieu a essayé de garder les mêmes tendances qu'avant-guerre. Alors face au progressisme, on peut dire qu'il a été compréhensif à l'égard du progressisme dans son ensemble, mais se méfiant toujours des dérives possibles sur le plan politique, notamment une dérive vers le communisme, bien entendu. Sur le plan aussi, on n'a pas évoqué suffisamment, à mon sens, les idées sociales, générales, du économique et social de la vie intellectuelle. Donc, il faut redire qu'il y a une critique parallèle du libéralisme économique et du socialisme. Il y a eu, dès le début, il faut le noter, dès avant la crise, de fortes critiques du libéralisme économique et même du capitalisme, qui n'est pas condamnable en soi, mais qui peut conduire à des excès et à des abus. On a parlé de capitalisme de malabol. On a parlé d'hypercapitalisme, oui, quand même des expressions assez fortes. Mais par ailleurs, on a aussi condamné le socialisme. Socialisme marxiste, en tout cas. Le barrage a toujours été total à l'égard du socialisme d'inspiration marxiste.
Ce qui est d'ailleurs des deux missions qui sont données à la revue dès le début, si ça correspond aux missions.
Oui, enfin au but qui soit. Oui. Quoi qu'on ait une certaine compréhension à l'égard d'un socialisme d'inspiration chrétienne, éventuellement du 19e siècle, pré-marxiste en quelque sorte. On a parlé d'une. Socialisme, religion ténébreuse, etc. Et des hommes comme Guillemin étaient quand même assez proches de ces idées, par exemple, Henri. Donc tout cela a conduit ensuite aux réactions très hostiles au régime totalitaire, notamment dans le cadre de la montée des périls 36-39, où on peut parler d'un esprit de pré-résistance incarné notamment par Maurice Schumann, bien entendu. Et d'autres aussi. Face à Munich, il y a eu quelques divisions, mais c'est quand même la tendance de Maurice Schumann qui l'a plus ou moins emporté. Donc dans le
franchement anti-munichoise. Oui.
Franchement anti-munichoise.
On a ce mot d'Étienne Born qui qualifie le père Médieu d'inventeur de la résistance.
Oui.
Même si le mot est postérieur, puisqu'il date de la Seconde Guerre mondiale et de la fin.
Pour parler de pré-résistance, et ensuite qui a bien sûr préparé... l'aventure de la résistance, si on peut l'appeler ainsi.
Mais puisqu'on retrouvera une grande partie des cadres de la vie intellectuelle dans les milieux de la résistance.
Certains, en tout cas, oui. Pas tous, mais enfin...
Une grande partie.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis il y a eu la collection Rencontres, créée par Médieu entre 40 et 44, qui a donc continué la vie intellectuelle dans les conditions que l'on connaît. Mais effectivement, on peut dire que la revue a préparé l'état d'esprit résistant, malgré la présence... Aussi, il faut évoquer un certain pacifisme incarné par Marc Sangnier, là, qui, lui, est conservé pratiquement jusqu'en 1939 une certaine forme de pacifisme, mais un pacifisme de combat, comme ils le disent, donc qui ensuite n'a pas évolué, bien entendu, ni vers le pétillisme, encore moins vers la collaboration, bien entendu. Donc sur le plan économique et social, hostilité à la fois au libéralisme et au socialisme, recherche une sorte de troisième voie, de ni droite ni gauche. Il faut rappeler aussi la condamnation du nationalisme, d'abord d'Action française, mais il y a une condamnation générale de tous les nationalismes. Il y a un article important qui s'appelait « Liquidation du nationalisme ». Donc tout le nationalisme, bien sûr, aboutissant au totalitarisme fasciste et hitlérien. Donc condamnation du nationalisme... Recherche d'une sorte de troisième voie. Recherche aussi sur le plan politique une voie intermédiaire. Il y a eu un célèbre article aussi qu'il faut citer, l'article « Dieu est-il à droite ?» Dieu est-il à droite en répondant bien entendu que non, Dieu n'est pas forcément à droite en tout cas. Cela signifiant que les catholiques pouvaient ne pas être obligatoirement à droite. Donc ils pouvaient aussi éventuellement s'orienter vers la gauche, dans le cadre d'un pluralisme et de ce que Maritain avait appelé la pluralité des plans. C'est-à-dire la distinction de l'action en chrétien sur le plan religieux, et en tant que chrétien sur le plan religieux plutôt, et en chrétien simplement sur le plan temporel et
politique. Formule qui est du Père Médieu lui-même.
Enfin, peut-être que Maritain l'a prise de mes dieux, mais en tout cas, les deux l'ont employée. Donc, cette formule a eu un grand retentissement. A favorisé ensuite les engagements divers sur le plan politique et le pluralisme des catholiques dans différents partis, ce qui jusqu'alors était assez difficile. Il faut rappeler que Maritain était plus ou moins en faveur d'une sorte de tiers-parti qui tiendrait de la gauche dans certains domaines sur le plan social et la droite sur le plan, politique de la réforme de l'État, par exemple.
On a quand même au total la vision d'une ligne éditoriale qui est un peu fluctuante et avec des tenants à l'intérieur même de la revue, chez les laïcs comme chez les religieux.
Tout à fait.
Il y a quelque chose de très protéiforme. C'est un laboratoire d'idées, c'est une revue vigie.
C'est un laboratoire, on peut le dire. On peut le dire, souvent en contradiction.
Vous citez d'ailleurs dans votre livre.
Contradiction interne, allez-y.
Vous citez, pardon, vous interrompez, Étienne Fouilloux. Étienne Fouilloux a pu écrire, sans trop nuire aux études, pourtant elles aussi secouées par la crise, la vie intellectuelle a trouvé d'emblée sa place de périodique catholique d'intérêt général. Elle a fixé un lectorat heurté par le non possumus maurassien et attiré nombre d'auteurs, jeunes ou moins jeunes, naguère tentés par un bout de chemin avec l'Action française.
Alors voilà, un début de l'Action française, de la vie intellectuelle est effectivement de lutter contre ce qui restait de l'influence de l'Action française dans le catholicisme français. Donc il y avait à opérer, c'est-à-dire les buts principaux de la revue, en 28, d'abord une œuvre dite de dissociation par rapport à tout un catholicisme conservateur, au minimum, ou marqué par les influences de l'Action française. Car en dehors de l'Action française elle-même, il y avait une influence diffuse de l'Action française sur tout le catholicisme français, enfin, sur une majorité, on peut dire, presque une majorité du catholicisme français. Donc, il fallait absolument, pour l'Action française, c'était l'avis de Pie XI et de Maritain, ensuite, après 26-28, donc, dissocier le catholicisme français de ses trop fortes solidarités avec ce catholicisme conservateur, nationaliste, et ce qu'on avait appelé un temps la gangue. La gangue des bien-pensants. La gangue des bien-pensants. Donc là, c'est un point très important que cette distanciation, notamment à l'égard d'un, non seulement à l'égard du nationalisme, mais à l'égard d'un catholicisme trop conservateur sur le plan social, en rappelant les devoirs sociaux, notamment de la bourgeoisie catholique, qui avait parfois été oubliée, même s'il y avait eu le catholicisme social jusqu'ici. Donc parallèlement à cette œuvre de dissociation, et ensuite une œuvre d'ouverture qui était nécessaire. Ouverture dans la fidélité. On a pu parler de fidélité créatrice. Voilà, la vie intellectuelle, c'est un des grands thèmes aussi, fidélité créatrice. Donc, dissociation d'une part, préalable, indispensable, à l'ouverture possible du catholicisme dans tous les domaines, sur le plan social et sur le plan international. C'est-à-dire dissociation avec le nationalisme et avec le conservatisme social. Donc, ce sont les points principaux qu'il faut retenir. Avec, bien sûr, des dissonances internes, des contradictions qui n'ont jamais été levées. Mais je crois que c'était en partie volontaire, puisque la vie intellectuelle aussi, c'est ce que j'essaie de montrer davantage peut-être dans mon livre que dans mon mémoire, c'est voulu un centre de rencontre et de carrefour d'influence. Car à côté du thomisme, il faut quand même rappeler aussi qu'on n'a pas refusé, contrairement aux avis de Maritain, certaines influences de son concurrent principal, qui était Maurice Blondel. Et avec les fameux cahiers à la nouvelle journée de Paul Archambault. Alors là, il y a quand même eu un barrage qui a joué pratiquement jusqu'au bout. Mais à la fin de la période, il y a eu un début de rapprochement, même avec les tendances blondéliennes. Et il ne faut pas oublier non plus que de ce qu'on appelle les démocrates chrétiens au sens large, notamment des démocrates populaires qui étaient assez nombreux dans la revue, écrits dans la revue, comme Marcel Prélot par exemple, ont été plutôt de tendance blondélienne que thomiste.
Et dominicaine. Quelle a été la postérité de la vie intellectuelle pour vous ?
La postérité peut se vérifier à différents niveaux. Niveau des individualités, d'abord.
Et là, elle est très claire, avec des noms qu'on retrouve ensuite
qu'on
durant la 4e guerre.
Qu'on retrouvera après la guerre.
Edmond Michelet.
Edmond Michelet n'a jamais participé directement, mais enfin, des hommes comme...
Il est proche des cercles médias.
Alors là, ou cercles médias.
De 7 étant présent.
Oui, mais tout cela était surtout la fin de la période en interconnexion, avec les nouvelles équipes françaises, tout cela, puis le rassemblement créé par l'Aube, et cet endroit, il y avait quand même et comme interpénétration de tous ces courants. Il faudrait rappeler en plus l'influence du courant personnaliste hein, que je développe dans mon livre plus que là encore que dans mon mémoire. Mais l'influence du personnalisme se fait sentir aussi dans la vie intellectuelle, ou des personnalismes, et surtout du personnalisme de Mounier lui-même. Mounier lui-même a collaboré à la vie intellectuelle. Donc il ne faut pas l'oublier, il n'y avait pas séparation totale entre le mouvement esprit et la vie intellectuelle. Et en 1950, quand ces personnages ont disparu, à la fois Maurice Blondel, Marc Sangnier et Mounier, la revue La Vie Intellectuelle, je le souligne dans mon travail, a rendu hommage à ces trois personnages en même temps, qui ont disparu presque en même temps dans les années 49-50. Cela prouve donc l'esprit de synthèse, la volonté de convergence. Je crois que ce n'était pas uniquement involontaire, il y avait une part de volonté de convergence, hein, de faire se rassembler toutes les tendances intellectuelles du catholicisme français, dissociées bien entendu des catholiques conservateurs et de ce qui restait de l'Action française. Il faut rappeler aussi que la levée des condamnations de l'Action française à l'extrême fin de la période, que la vie intellectuelle a finalement plus ou moins approuvé,
oui,
dans le sens de l'unité des
chrétiens.
On sent l'influence du Père Médieu, oui, qui a suivi les directives pontificales, alors que Bernardo et Boisselot, sans doute,
voulu
rompre à ce moment-là.
Eh bien, Jean-Claude Delbrecq, je vous remercie. Je rappelle que vous avez publié au CERF la revue La Vie Intellectuelle, Marc Sangnier, l'automisme et le personnalisme. Merci beaucoup.
Merci.